et il raconte son truc et il décolle sur une histoire de peut-être bien 20-30 minutes. Et après 5 minutes, je fais « Attends un peu, c'est une histoire que je connais, c'est... » Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de contes, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de contes. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Épisode 6. Alors, dans l'épisode précédent, merci d'être là. Merci Marianne d'être là également. J'ai Marianne en face de moi qui m'écoute. Je sais pas s'il faut que je vous le répète. Je sais pas si vous venez d'embarquer dans le train. Sentez-vous pas à part si vous venez d'embarquer. Là. Vous pouvez avoir votre manière de consommer tout ça. Épisode précédent, je vous parlais de mon répertoire et je vous disais que j'allais vous raconter les petites histoires derrière la grande. Donc, je me disais, tout l'été, je raconte des longues histoires. Et que ça serait trippant, je pense, pour du monde, de pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai fait avec cette histoire-là, d'où elle me vient, ou une anecdote qui venait de pair avec ça. Et puis live, après avoir vécu la soirée de conte, aller se taper le balado puis dire « Ah tiens, vas-tu voir un peu le comment on appelait ça, le special feature d'un DVD, quand il y avait des DVD, dans le temps. » Je me souviens la première fois que j'ai rembobiné un DVD. On s'adapte lentement à notre époque. Hein? Ouais, c'est ça, pour vous donner du petit détail. Donc, un de mes plus vieux contes, en fait, mon plus vieux conte, c'est-à-dire, c'est pas le plus vieux conte du monde, mais c'est celui que je porte depuis le plus longtemps. C'est le premier avec lequel je suis arrivé. C'est l'histoire de... Mes titres sont vraiment de la marde. J'ai pas vraiment de titre à mes histoires. Lui, je l'appelle l'histoire de Jean Tibert qui va au Nouveau-Brunswick vendre son saumon. Un titre. Mais une majuscule puis un point à quelque part. Là. Alors, ce conte-là, c'en est un qui, au début, je savais pas trop comment m'y prendre. Et je me demande, en fait, maintenant, où est-ce que j'ai attrapé cette histoire-là, moi, être franc avec vous. Mais me semble que je l'ai lu quelque part. Et puis que j'ai flushé une bonne partie de cette histoire-là en n'étant pas d'accord avec ce qu'elle proposait. Mais que je l'ai adaptée, puis je la porte depuis 12 ans. Puis ça, c'est une qui a eu beaucoup de millage parce que, veux pas, les premières années, j'avais seulement 2 histoires la première année, 3-4 histoires la deuxième année. Donc, c'est un conte que j'ai peut-être fait, je sais pas moi, 200 fois, 300 fois. Bonne question, tu sais. Normalement, les conteurs professionnels te diraient c'est un spectacle de contes que j'ai fait un certain nombre de fois. Mais moi, c'est une histoire que je t'ai fait une centaine de fois. Et c'est mon conte qui est pas mal le plus dans un format traditionnel. C'est-à-dire que on a le personnage du diable qui est là, on a une run de 3 souhaits à faire, on a un père, un fils qui sont présents, on a une femme qui est une espèce de meuble dans un coin puis qui a pas de prénom, ce qui est... on est à fond dans le conte traditionnel et dans tous les problèmes qui viennent avec. Et après, on se demande quoi faire avec. Et puis... donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? Ah, c'est ça! Donc, ce conte-là, je le porte depuis une douzaine d'années et sans trop savoir d'où il vient. Et puis, cette année, je suis repassé en Bretagne. J'ai retrouvé un ami conteur, Samuel, duquel je vous ai parlé déjà, ou pas. Dites bonjour à Samuel pour ceux à qui c'est la première fois que vous le rencontrez. Et Samuel me dit, Pat, j'ai une histoire pour toi. Sam, il sait que je cherche des histoires et que je cherche à les entendre de vive voix. J'ai comme plein d'amis conteurs-conteuses ou pas conteurs-conteuses et qui savent que je cherche. Fait que quand ils en ramassent, c'est pour moi. C'est, on a tout un chum qui ramasse le verre de mer. Et tous les chums de ce chum-là ont un pot de cheese whiz à la maison rempli de petits bouts de verre de mer pour la fois où est-ce qu'on va te revoir. C'est une référence qui n'est pas trop transférable à Montréal. Mais en tout cas, ici, on sait de quoi je parle. Donc Sam, il me dit, Pat, j'ai un compte pour toi, tu vas triper. Puis et il m'explique qu'il s'est installé dans un petit village en Bretagne où il y a une femme qui est le personnage le plus célèbre de ce village-là, ce qui est rare quand même. Et c'est un vieux village, c'est un village de Plusunette que ça s'appelle en Bretagne. C'est sous l'Agnon pour ceux pour qui ça change de quoi. Donc, cette femme-là s'appelait Marguerite Philippe. Marguerite Philippe. Ce serait la version francophone de cette femme qui était bretonnante. Donc, je sais pas pourquoi on traduit son nom. C'est pas de nos affaires. Donc, Mararit Fulup, elle était... vous allez voir où je m'en vais avec tout ça. Sam, il me dit, il faut absolument que je te parle de cette femme-là. Elle était célèbre parce que elle était mendiante. Et, bon, c'est pas une raison d'être célèbre. Il était un sur deux. Il était à cette époque-là. Elle a vécu il y a à peu près 150 ans. Elle avait des mains... je crois qu'elle avait un handicap aux deux mains. Alors, il y avait à peu près aucun métier qu'elle a pu pratiquer, aucun métier de l'époque. Donc, elle s'est mise à mendier, à faire des espèces de pèlerinages. L'église était... La religion était hyper importante dans ce temps-là. Donc, pour 8 centimes, je pense qu'elle faisait un tour de l'église sur ses genoux pour toi. Elle faisait des pénitences pour le monde. Dans le temps, on pouvait s'acheter un ciel. Donc, elle faisait des runs comme ça et même elle faisait des longs pèlerinages. Je sais pas, moi, t'as mal dans le dos, ben je vais aller prier Saint-Paul. Lui, il guérit le mal de dos. Mais ça, le problème, c'est qu'il est à 30 000 d'ici. Fait que donne-moi 20 cents, puis j'y vais. Fait que là, elle ramassait les runs comme ça, puis peut-être bien qu'elle optimisait ses transports, qu'en chemin, elle ramassait des runs, puis elle jouait genre aux aventuriers du rail, mais du pèlerinage. Puis elle se promenait nu-pied. Elle avait ses sabots sur l'épaule, puis elle se promenait nu-pied. Et cette femme-là, bon, en se promenant comme ça, eh bien, à force, bien sûr, elle avait à peu près pas d'argent. Elle avait une petite maison dans le village où elle restait, mais elle était à peu près jamais là. Et ben, elle se trouvait à se faire héberger par les gens. Elle n'avait pas le choix. Elle allait toujours ben pas aller à l'auberge. Elle n'en avait pas les moyens. Et puis, à force d'aller chez les gens, ben, fouille-moi, mais de fil en aiguille, elle s'est mise à ramasser des contes puis des chansons traditionnelles et à les raconter puis à les chanter également. Donc, elle s'est mise à porter un bagage, mais elle est devenue célèbre, ben, petitement célèbre, célèbre en Bretagne, sur le territoire où elle se déplaçait, côté nord, pas mal, la Bretagne, dans le Trégor, je pense. Et elle se promenait comme ça et c'était devenu, avec le temps, un événement d'avoir Mararit Fulup qui débarquait chez vous. Tout le monde s'en venait. Et c'est de toute beauté parce que les écrits qui parlent d'elle disent que elle avait une mémoire photographique. Ça, c'était vraiment sa force, mais un jugement questionnable. Entre autres, ben, comme beaucoup de gens à l'époque, elle, toutes ces histoires-là de pèlerinage, elle y croyait, mais je veux dire, elle pleurait pour toi en allant voir Saint-Paul pour ton dos, puis faites que ça marche, puis Saint-Paul va s'occuper de vous, tu sais. Mais quand elle recevait un conte traditionnel où est-ce qu'il y avait une princesse prise dans un château, ben, elle braillait pour la princesse parce que les écrits disent qu'elle était convaincue qu'il y avait eu vraiment cette princesse-là qui était prisonnière d'un château. Fait qu'elle avait cette espèce de... peut-être une forme de naïveté qui est belle par rapport aux histoires qui a fait que... ben, elle y croyait, donc elle les portait comme un réel souvenir, comme un fait historique. Mais malgré tout, quand ils l'ont collectée, cette femme-là, il y a des ethnologues qui sont passés et qui ont fait une carrière sur son cas. Qui ont collecté toutes ces histoires qu'ils ont écrites, qu'ils ont enregistrées sur des rouleaux de cire, une espèce de vinyle de l'époque pour enregistrer le monde. Eh bien, elle avait au-dessus de 150 contes traditionnels dans plein de versions et puis des chants traditionnels également, tout en breton, tout ça. Et comme 200 chants traditionnels. Ça lui donnait un truc de genre 350 items dans sa mémoire. Mais elle, ben, elle s'en servait à chaque soir de ce matériel-là. Alors, c'était hyper vivant et il n'y a rien, il n'y a pas une assiette qui devenait froide parce qu'elle servait chacun de ces plats-là à tous les soirs. Sauf que quand même, c'est beaucoup trop de stock pour une seule mémoire. Ben, peut-être pas, mais alors, elle s'était fait faire une liste. Mais elle ne savait pas ni lire ni écrire. Donc, elle avait demandé à sa voisine d'y écrire une liste sur laquelle il y aurait les titres de toutes ses histoires puis de toutes ses chansons. Puis quand elle débarquait dans une soirée, elle le donnait à la liste. Puis elle disait « Demandez-moi de quoi ». Puis là, on disait, ben raconte-moi l'histoire, je sais pas, moi, des trois coussins sur le futon. Sur le futon, ça, c'est ton histoire 4 qui est là. Et elle décollait. Ah, c'était une fois. Puis elle partait. Fait que elle avait son index avec elle. C'était son aide-mémoire. Elle décollait pas sans ça. Sinon, probablement qu'elle aurait toujours raconté un peu toujours les 4-5 mêmes histoires. Mais d'avoir ce papier-là lui permettait d'avoir accès à tout son répertoire puis d'en laisser aucune disparaître. Ce qui a fait ben, la qualité de la collecte de cette femme-là. Et dans la collecte, ah ben tiens, encore pour la petite histoire, à un moment donné, l'ethnologue qui l'a collectée intronisé. Ils ont fait une statue de bronze à son effigie et elle a été invitée à aller voir ça, ce monument-là. Et quand elle l'a vu, quelqu'un l'aurait entendu dire « Ah, oh, mais c'est vraiment lui! » Et elle adorait cet homme-là et elle avait une super relation avec lui. Alors, elle était toute émue de voir vraiment, mais c'était son portrait tout craché. Et puis, bon, on fait des discours pour célébrer cet homme-là, cet ethnologue-là, pour la qualité de sa recherche et puis du matériel qu'il a sauvé et puis d'avoir été trouver ces vieux contes bretons-là. Et puis, à un moment donné, quelqu'un l'a entendu dire, elle était dans l'assistance, puis elle était comme, hey, mais attends, il n'a rien fait. C'est moi qui ai donné toutes ces histoires-là. Il y avait un solide bout de son répertoire à cet homme-là qui était, en fait, transmis par Mararit Fulup. Et puis, ça a été... C'était quand même intéressant d'avoir ce rapport-là. Elle était née du mauvais côté de la scolarité. Elle n'avait pas les contacts pour ça. En plus, c'était une femme. Et ça serait aujourd'hui que ça serait probablement pas différent, malheureusement. T'sais, quand elle est décédée, on l'a mis dans la fosse commune. Alors, comment elle est devenue célèbre dans son village? Eh bien, c'est qu'il y a une autre femme qui s'était liée d'amitié avec elle, une Américaine. Et je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous raconter tout ça. On meuble du temps, on meuble du temps. Alors, il y a une autre femme qui s'était liée d'amitié avec elle et c'était une Américaine qui avait les moyens, elle. Et quand elle a su que Mararit était décédée dans la fosse commune, ben, elle n'était pas morte dans la fosse commune, mais on l'avait enterrée là, et l'Américaine s'était dit, mais ça se passera pas de même. Et ça a pris, ça, en dedans d'un an, l'Américaine avait fait déterrer Mararit Fulup. On l'avait reconnue, je ne sais pas, dans la fosse commune. On l'avait déterrée. Et on l'avait enterré à un autre endroit, puis ils ont pris 1,5 tonne de granit qu'ils ont sculpté à l'effigie de Mararit qui est là avec ses petits sabots de bois et puis ses petites mains crochues sur ses genoux en train de raconter une histoire. T'sais. Donc, encore aujourd'hui, au cœur de Plusunette, il y a cette statue-là de cette femme-là. Et puis, il y a une couple de livres dans les archives, on retrouve des contes qui ont été archivés par l'ethnologue, la statue de bronze. T'sais. Mais en tout, il est écrit « collecté ». À Plusunette par à Mararit Fulup. Je pense que c'est juste ses initiales qui sont là, à dire à ce point auquel elle a laissé sa trace. Donc, mon ami Sam, il me dit, Pat, j'ai un compte pour toi et je le tiens d'une quêteuse. Et lui puis moi, on triple là-dessus parce que d'aller cogner aux portes pour se faire. C'est comme Superman pour nous. C'est Superwoman, Wonder Woman, tu sais. Et on était comme, oh, wow, un conte de cette femme-là, ce serait incroyable. Et lui, en fouillant dans les archives, il avait trouvé, il avait lu et il sait comment je travaille. Donc, il était comme, je l'ai lu et puis moi, je vais te le raconter. Donc, au moins, tu l'auras eu, pas d'un livre, tu sais. Puis je dis, ah, bon, c'est cool, Sam, vas-y pour ça. Et puis, comme j'étais de passage, j'organise une petite soirée de conte chez lui pour pas me la raconter comme ça sur le coin de la table. Mais on va prendre le temps, tu sais. Il organise une petite soirée de conte dans une petite chaumière. On remplit, il y a 50 personnes, ça ne rentre plus, les murs craquent. Et puis, bon, moi, je raconte des histoires et après, bon, on mange un peu. Puis tout d'un coup, l'ambiance se relâche un peu et il y a moins de monde dans la place. Donc, on s'assit par terre et ça se met à se raconter des histoires et puis à chanter des chansons, à faire des petites danses traditionnelles là-bas. Et à un moment donné, Sam, il fait « bon ». Notre ami Pat, ici, est venu chercher des histoires et je lui avais promis de lui en raconter une. Et c'en est une que je tiens d'une vieille dame qui a vécu ici. Et il se met à raconter une histoire, duquel j'ai oublié le titre. Et il raconte son truc et il décolle sur une histoire de peut-être bien 20-30 minutes. Et après 5 minutes, je fais, attends un peu, c'est une histoire que je connais, c'est ma plus vieille histoire. C'est exactement le motif de Jean Thibault qui traverse au Nouveau-Brunswick vendre son saumon. Et je réalise que ben moi, j'avais lu une version trad, probablement québécoise, ici, et que Sam, lui, est tombé sur une version d'il y a 150 ans de la bonne femme qui faisait ses petits pèlerinages nu-pieds dans Gravel, qui portait exactement la même histoire. Et à plein de moments, je me dis, « Hey, ce bout-là, t'es sérieux? C'était dans le conte trad. Je pensais que c'était moi qui l'avais ajouté. » Il y a plein de scènes, de revirements de situation que je trouve que ça sort un peu d'un conte trad, puis je me dis, ah, ça doit être moi qui avait interprété ça de même. Non, pas en tout. Finalement, je réalise que je suis encore collé, mais à côté sur la version traditionnelle de ce conte-là, qui finalement a traversé deux fois l'océan. Et puis, moi, il y a 4 ans, j'étais venu en Bretagne, et puis on avait fait une soirée de conte chez Sam. Et Sam m'avait demandé de faire une longue histoire pour que, que ça soit un peu plus spectaculaire. Et c'est exactement cette histoire-là que j'avais racontée. Fait qu'une fois que Sam termine son histoire l'autre soir, il termine et il se retourne vers moi et il me regarde puis il fait « Et puis? » J'ai dit « Sam, attends, je t'ai déjà raconté cette histoire-là, t'as pas écouté quoi? » Et là, il part à rire puis on réalise toutes les équivalences qu'il y avait dans cette histoire-là. Et finalement, ça donne ça, tu sais, de travailler avec du matériel qui est traditionnel, des contes qu'on dit de répertoire. C'est-à-dire que ça appartient un peu à tout le monde et tout le monde retravaille avec les mêmes morceaux. Tout le monde part avec une version qu'il fait sienne. Et puis, à force de gagner en expérience là-dedans, Eh bien, des fois, tu vas passer dans un festival, puis tu entends une histoire, puis tu fais « Ah, je vois ce qu'il a fait. Il a pris, je sais pas moi, les trois petits cochons, et puis il les a mis dans un contexte de trois laitiers qui font telle affaire. » Tu vois le tour d'habilité, mais clairement, tu vois le jupon dépasser, puis ça devient une espèce de plaisir de collectionneur de dire « Ah, il fait exactement ce conte traditionnel-là. Je le vois trop bien, sauf qu'il raconte que ça s'est arrivé hier dans le métro. » quoi. Et c'est un peu ça, ben notre travail d'adapter les trucs. Mais clairement, c'est un des plaisirs qu'on finit par avoir en entendant d'autres. On devient un peu des geeks du conte. Alors, voilà pour la brève histoire derrière l'histoire de Jean Thibault qui traverse son Nouveau-Brunswick, vend son saumon. Voilà. Je sais pas dans quel ordre je le dis, là. Ça, c'est un conte-là. Voilà. Puis, des fois, le monde se demande comment l'impro peut me servir comme outil quand je fais du conte, quel espace ça prend. Ben, exemple, dans ce conte-ci, il y a Jean Thibault qui s'en va au Nouveau-Brunswick vendre du saumon et puis il est supposé ramener l'argent à son père, mais par une péripétie, l'argent vient qu'à manquer, il la donne à quelqu'un d'autre. Et ça m'est arrivé une fois, je me souviens parfaitement, j'ai sauté la péripétie. Je sais pas, ça faisait un an que j'avais pas conté cette histoire-là. Le gars est parti vendre son poisson, il est revenu, puis arrivé devant son père, il avait encore l'argent, puis je m'ai dit, merde, le compte marche plus du tout si ce gars-là a encore l'argent, tu sais. Mais contrairement à, je sais pas moi, un réalisateur au cinéma qui dirait « Ah, zut! » Ils disent pas « merde » les réalisateurs, ils disent « zut! » Ils ont été à l'école plus longtemps que moi. Alors, ils diraient « Ah, zut! On n'a pas tourné ça, il nous manque ces images-là, il va falloir retourner sur le terrain pour capter ça. » Mais non, moi, on a une beaucoup plus grande liberté dans le conte. Moi, ça n'a pas été une longue histoire, régler ça. Je m'aperçois de ça. J'ai même pas eu à en parler au public, quoique j'aurais pu. Mais tout simplement, le personnage se retrouve devant son père et puis je dis... Ce qu'il voulait pas que son père sache, c'est que pendant qu'il était de l'autre côté, après avoir eu l'argent, tac-tac-tac-tac-tac, il se passe la péripétie, tu sais. En une phrase, ça devient un souvenir qui peut être légitimement dit à ce moment-là de l'histoire au lieu de se dire au moment chronologique où ça se passe. Alors, on a toute cette latitude-là avec laquelle, je veux dire, c'est comme si tu avais 30 roues de secours sur ta voiture. Tu seras jamais mal pris tant que tu restes tranquille, ça va, on a des options, puis c'est là où l'expérience est payante, autant l'expérience de compter que l'expérience d'impro, tu sais. Et puis, j'ai aussi l'avantage ou l'inconvénient que j'ai pas à m'accorder avec un autre comédien ou un autre intervenant qui se dirait, mais où est-ce qu'il s'en va avec son souvenir, ou l'autre, il devient main moite parce qu'il fait, mais il a oublié de dire sa péripétie, tu sais. Non, il y a pas de trouble. Moi, t'as toutes les commandes, ouvre un tiroir, tu sors ça, il y a pas de trouble, on est rendu, tu sais. Et dans cette histoire-là aussi, il y a... comme j'ai pas de texte, il y a des choses qui sont pas importantes pour moi. Puis je me souviens que dans ce compte-là, il y a un montant d'argent qui est dit, justement. Et c'est un montant qui doit être important, mais il n'est pas important. Mais c'est une grosse somme. Il faut que ça représente beaucoup de l'argent, beaucoup d'argent pour l'époque. On est dans les années 1800. Et puis, je sais pas, des fois, je disais 700$ ou 1292$, tu sais, pour que ça fasse beau, je sais pas. Sauf que, maudit, ce montant-là, j'avais à le répéter plus tard. Ce qui me pose problème parce que je sais pas moi ce que j'ai dit tantôt cette fois-ci. Alors, fouille-moi comment ça s'est produit, mais à un moment donné, je me suis mis à avoir des espèces de chiffres fétiches. Je me suis mis à avoir des... C'est un de mes outils de travail, c'est le chiffre 682 et 50. Je sais que quand j'ai un gros chiffre à dire, je dis 682 et 50. Et quand j'ai à me rappeler qu'est-ce que j'ai dit, c'est facile, c'est mon chiffre. Ou sinon, 365, c'est mon autre gros chiffre. Il est facile à retenir parce qu'il y a 365 jours dans une année. Mais il y était combien de personnes à bord du bateau? 365 personnes. S'il en manque une, 364. T'sais. Là, maintenant que je l'ai dit, si ça se trouve, il y a des spectateurs qui vont se taper du coude quand ils vont entendre 682. C'est comme s'ils avaient vu Charlie dans Où est Charlie? Oh, il vient de le dire. Oh, yes, il l'a plugué. C'est comme une espèce de caméo dans un film où oh, on a eu 365. Oh, yes. Des petits plaisirs de la vie. Ça, avouez que ça donne envie d'aller voir du conte, hein, tout d'un coup, de savoir que tu peux chercher le chiffre 682,50. Vous devenez vraiment des initiés maintenant que vous êtes en contact avec cette matière qu'est le podcast sur... Il était une fois dans l'Est. Fait que j'ai ça comme outil de travail. J'ai deux chiffres qui sont disponibles sur... C'est mes chiffres de service. Ils sont toujours disponibles. Je peux y ressortir autant que je veux. Et j'avais jamais réalisé ça, mais c'est ça que j'ai dans mon coffre à outils. Si tu veux te mettre à compter, commence par te trouver deux chiffres fétiches. Et puis avec ça, tu peux compter n'importe quoi, là. Alors, on se retrouve pour un prochain compte dans un prochain épisode. Merci.
écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.